Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Niger, le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce mardi. Les attaques menées dimanche par des hommes armés contre des villages de la région de Taoua, non loin du Mali, ont entraîné la mort de 137 personnes, a annoncé lundi soir le gouvernement nigérien. Ces attaques sont les plus meurtrières commises au Niger ces dernières années par des djihadistes présumés. En prenant dorénavant systématiquement les populations civiles pour cible, ces bandits armés franchissent une étape de plus dans l'horreur et la barbarie, a dénoncé le porte-parole du gouvernement Zakaria Abdrahman dans un communiqué lu à la télévision publique. Nous reviendrons sur le défi sécuritaire dans la région en seconde partie de cette édition. Au Nigeria voisin, des dizaines de manifestants, des camarades de classe ou des familles des victimes se sont réunis à Kaduna, dans le nord du pays, bloquant l'une des routes principales de la région pour demander la libération de 39 étudiants kidnappés dans leur pensionnat il y a une dizaine de jours. Le 11 mars, des hommes armés avaient attaqué le pensionnat du lycée pour tenter de mener un nouvel enlèvement de masse d'écoliers contre rançon qui se multiplie dans le nord et le centre du Nigeria. Au Congo-Brazzaville, la réélection du président sortant, Denis Sassou Nguesso, s'annonce déjà comme un plébiscite d'après les premières tendances officielles de lundi à l'issue de la présidentielle de dimanche. John Linden et notre correspondant sur place, Arsène Sévra, nous en parleront. En République centrafricaine, le parti du président Faustin Archange Touadéra arrive en tête aux législatives, mais encore loin d'une majorité absolue, selon les résultats provisoires officiels d'un scrutin organisé il y a 8 jours. Nanit Talani fera le point. L'ancien chef de la police de la République démocratique du Congo, le général John Numbi, soupçonné d'être le commanditaire de l'assassinat en 2010 du militant des droits humains Floribert Chebeya, des cibles des sanctions occidentales, a fui au Zimbabwe, ont indiqué le dit des sources concordantes. En février, 2 policiers congolais en exil ont affirmé à RFI avoir participé à l'assassinat de Floribert Chebeya et accusé le général Numbi de l'avoir commandité. L'Organisation mondiale de la santé a dénoncé à nouveau l'inégalité d'accès aux vaccins contre le COVID-19 entre pays riches et pays pauvres. Cette inégalité se creuse et devient grotesque, a affirmé lors d'une conférence de presse son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. En Allemagne, la plupart des magasins seront fermés et les offices religieux annulés le week-end de Pâques du 1er au 5 avril dans le cadre d'une période de restrictions renforcées pour stopper la hausse des infections COVID-19, a annoncé mardi la chancelière Angela Merkel. Les Européens, les États-Unis et le Canada ont sanctionné lundi la Chine pour la persécution des musulmans ouïghours dans la région du Xinjiang et Pékin a immédiatement riposté avec des sanctions contre une dizaine de personnalités européennes. Par ailleurs, les États-Unis et l'Union européenne ont sanctionné lundi des responsables de la junte au pouvoir en Birmanie pour la répression meurtrière des opposants au coup d'État militaire qui continuent à manifester dans tout le pays. L'Arabie Saoudite a proposé lundi un cessez-le-feu global pour mettre fin au conflit dévastateur au Yémen, proposition immédiatement rejetée par les rebelles houthis qui combattent depuis plus de 6 ans les forces du gouvernement, appuyé militairement par Riyad. Ici aux États-Unis, 10 personnes au total, dont un policier, ont été tuées dans une fusillade survenue lundi après-midi dans un supermarché de Boulder, dans le Colorado, a déclaré lundi que la chef de la police de la ville. Le policier tué a été le premier à arriver au supermarché où des coups de feu avaient été signalés et il a été mortellement touché par balle, a-t-elle déploré lors d'une conférence de presse en saluant son action héroïque. Boulder a subi une horrible et terrible tuerie de masse, a lancé de son côté le procureur du comté. La suite de nos informations, au Congo-Brazzaville, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, est très largement en tête de la présidentielle de dimanche. Selon les premiers résultats présentés hier par la commission électorale, il a eu entre 85 et 100% des voix dans une trentaine de centres. Précision de John Linden.
Ce ne sont que des tendances en pourcentage sur l'ensemble du pays. Les résultats sont majoritairement dans ce sens, a déclaré à la presse le président de la Commission nationale électorale indépendante, Henri Bouka. Dans la capitale Brazzaville, le président sortant, 77 ans, recueille un peu plus de 89% des voix dans le quartier de Potopoto ou encore 100% dans le district de Kakamoïka dans le sud. Dans le reste du pays, Denis Sassou Nguesso dévance aussi largement son principal rival, Guy-Brice Parfait Kolela, décédé en France du Covid-19 dans la nuit de dimanche à lundi. Sur les résultats des 35 circonscriptions, le président de la commission n'en a annoncé qu'un défavorable à Sassou Nguesso dans la commune de Makele-Kele à Brazzaville où il recueille 21,22% des votes contre 76,23% pour M. Kolela. Les résultats complets seront annoncés aujourd'hui ou demain, selon le président de la commission électorale. En 2016, M. Sassou Nguesso avait été réélu au premier tour avec 60% des voix devant M. Kolela, qui n'avait alors obtenu que 15%.
En Centrafrique, le mouvement Cœur Uni du président Faustin Archange Touadéra arrive en tête aux législatives, mais est encore loin d'une majorité absolue avec 25 élus sur 140 sièges, selon les résultats provisoires du scrutin organisé il y a 8 jours. Précision de Nani Talani.
25 députés du MCU ont été élus sur 140 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale, à l'issue du second tour organisé dans quelques circonscriptions le 14 mars, en même temps qu'un nouveau premier tour dans un grand nombre de circonscriptions, selon les résultats provisoires de l'Autorité nationale des élections, qui doit être confirmé par la Cour constitutionnelle. Il est difficile de dire pour l'heure comment se répartissent entre la majorité et l'opposition les autres sièges déjà pourvus en fonction des étiquettes et de l'orientation des indépendants. Il reste 49 sièges à pourvoir lors d'un second tour dont la date n'a pas encore été annoncée. La nouvelle Assemblée pourra cependant se réunir pour sa première session le 2 mai si la Cour constitutionnelle valide les 91 sièges déjà pourvus, le quorum requis étant de 71 députés. Pour l'heure, les indépendants arrivent en deuxième position derrière le MCU de M. Touadéra, mais personne n'est en mesure de dire s'ils se rangeront dans le camp présidentiel ou dans l'opposition. Le MCU a encore besoin de 45 élus pour obtenir la majorité absolue.
Israël vote à nouveau aujourd'hui pour le 4e scrutin législatif en moins de 2 ans sur fond de division et de campagne intense de vaccination contre le Covid-19. Le point avec Michel Joseph.
Deux camps s'affrontent, les pros et les anti-Netanyahou. Les derniers sondages créditent le Likoud de M. Netanyahou de la première place, avec environ une trentaine de sièges sur les 120 de la Knesset. Il serait suivi de la formation du centriste Yair Lapid, des partis de droite dirigés par Gideon Saar et Naftali Bennett, avec chacun près de 10 sièges. Pour obtenir la majorité des 61 députés, Benjamin Netanyahou compte faire alliance avec la droite religieuse et l'extrême droite. Il doit s'assurer les appuis de deux partis ultra-orthodoxes et sur la nouvelle formation sioniste religieux menée par Itamar Ben-Gvir, une personnalité phare de l'extrême droite qui pourrait même faire son entrée au Parlement. Le centriste Yair Lapid veut faire alliance avec les partis de gauche, du centre et de la droite, déçus par M. Netanyahou. Et si aucun camp n'arrive à former un gouvernement, Benjamin Netanyahou restera de fait Premier ministre jusqu'à la tenue de nouvelles élections.
La Minute Éco, Nani Talani.
La Tanzanie obtient un prêt de plus de 247 millions de dollars pour financer la mise en œuvre des phases 3 et 4 de son projet de bus rapide transit de la ville de Dar es Salaam. Ces fonds devraient aider à l'acquisition de plusieurs bus, la construction d'une route de 23,6 km et le bitumage de 16,1 km de route. Ce projet permettra de rendre fluide la circulation et renforcer l'accessibilité des banlieues. Plus de 61% de la dette bilatérale du Cameroun est détenue par la Chine seule, selon la Banque africaine de développement. Ce montant représente 27,4% de la dette totale de Yaoundé, qui se chiffrait à 10 164 milliards de francs CFA fin septembre 2020, soit 45,8% de son PIB. À cause de ce lourd endettement, la BAD pense que le Cameroun apparaît sur la liste des pays actuellement en situation de surendettement ou jugés à haut risque de surendettement. Pour terminer, la société pétrolière Eni a accepté de payer une amende de 11,8 millions d'euros pour mettre fin à une enquête sur les soupçons de corruption au Congo-Brazzaville. La justice italienne a requalifié le délit présumé de corruption en malversation, ouvrant la voie à un accord à l'amiable. L'enquête, entamée en 2017, porte sur des renouvellements de permis pétroliers sollicités en 2015 par Eni au Congo.
Les sports avec Bagassi Koura.
Début d'une semaine décisive pour les sélections africaines, l'avant-dernière journée des qualifications à la CAN de 2022 qui commence ce mercredi. Et Michel Dussuyer, le sélectionneur du Bénin, à travers une conférence de presse, a communiqué la liste de ses joueurs. Après moult reports, le sélectionneur donc des Écureuils a enfin dévoilé ce lundi la liste des joueurs retenus pour affronter le Nigeria et la Sierra Leone les 27 et 30 mars prochains. De Boyikon, la correspondance d'Élisée Mpatine.
Un groupe de 23 joueurs dans lequel figurent presque tous les cadres de la sélection, notamment Fabien Fanol, Khaled Adenon, Jordan Adeouti, Chodel Dossou, Steve Mounier ou encore Michael Poté. Le capitaine Stéphane Sesseyon, toujours sans club depuis son départ du championnat turc, sera à Cotonou comme invité de marque. Il participera, d'après le sélectionneur, aux séances d'entraînement.
Concernant Stéphane, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai d'abord souhaité sa présence dans le groupe par rapport à son leadership. Maintenant, Stéphane aussi va participer aux séances d'entraînement. Parce que lui et moi, on fera aussi un point par rapport à ses sensations et à mes sensations par rapport à avoir du temps de jeu ou pas. Présence, son leadership qui est très important à l'intérieur du groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure.
À part ses séances, on peut aussi signaler l'absence d'Olivier Verdon et de Rudy Gesté retenus par le club. Comme le Sénégal et les Comores, le Bénin pourra également s'appuyer sur ses joueurs qui évoluent en Ligue 1 et 2 française pour déjà chercher sa qualification à Porto-Novo contre le Nigeria avant le match piège de Conakry contre la Sierra Leone. Élisée Mpatine, Cotonou, VOA Afrique.
Le Burkina Faso se déplace en Ouganda pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le sélectionneur national des étalons, Kamou Malo, avait dressé une liste de 33 joueurs histoire de parer au forfait des joueurs évoluant en Europe à cause des mesures sanitaires. De Kampala, la correspondance de Kader Traoré.
Les talons du Burkina sont à Kampala en Ouganda où ils vont affronter le mercredi 24 prochain les Queens dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Un petit point manque au bonheur du Burkina pour aller à Cameroun 2021. Le sélectionneur national des étalons, Kamou Malo, est très optimiste car pour lui, tout peut se jouer ici en Ouganda.
Et depuis les journées passées, qu'il nous manquait juste quelque chose, en tout cas pour valider notre ticket. Donc on est conscient et que cette qualification-là peut déjà se jouer ici. Pour cela, tout le monde est motivé, les garçons sont motivés, même bon, nous encadrement on est motivés.
Mais déjà pour pouvoir réunir l'effectif nécessaire, il a fallu avoir de la vision car les clubs européens n'étaient pas enclins à libérer les joueurs professionnels. Pour cela, les sélectionneurs nationaux Kamou Malo avaient déjà sélectionné un bon nombre de joueurs locaux du championnat burkinabé.
On a vraiment travaillé en anticipation. Et déjà, on avait pris le contact avec certains joueurs.
Le Burkina, qui avait fait jeu égal face à cette même formation ougandaise à Ouagadougou lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021, compte repartir avec au minimum le point du match nul suffisant pour se qualifier pour Cameroun 2021. Kader Traoré à Kampala en Ouganda pour VOA Afrique.
Le Tchad a été disqualifié des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Selon la Confédération africaine de football, cette décision intervient à la suite de la dissolution inexpliquée de la Fédération tchadienne de football par le ministère des Sports. L'équipe nationale du Tchad était dernière au classement du groupe A en vue des qualifications pour la CAN qui se tiendra en janvier 2022 au Cameroun. la Namibie et le Mali qui devaient affronter le Tchad cette semaine se sont vus accorder des victoires sur le score de 3-0.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Intensification des violences des groupes terroristes dans l'ouest du Niger, proche de la frontière malienne. Les attaques menées dimanche par des hommes armés contre des villages de la région de Taoua au Niger, non loin du Mali, ont entraîné la mort de 137 personnes, a annoncé lundi soir le gouvernement nigérien. Ces attaques sont les plus meurtrières commises au Niger ces dernières années par des djihadistes présumés. Bagassi Koura a joint à Niamey le journaliste Moussa Aksar, spécialiste des questions de sécurité.
C'est le long de la frontière entre le Niger et le Mali, dans la région de Taoua, c'est une série de villages qui ont été attaqués par les éléments selon nos informations de l'IGS. Ces attaques-là, l'IGS accuse, selon toutes nos informations, les habitants de ces villages d'avoir collaboré avec les autorités nigériennes. Ensuite, comme vous le constatez, il y a eu aussi une attaque dans la région de Tillabéri et sur des civils. C'est la première fois qu'il y a eu des attaques sur des civils, ce qui fait un nombre important de populations qui ont été tuées le long de la frontière entre le Niger et le Mali.
Et cette fois-ci, les forces armées n'ont pas été visées?
Oui, les forces armées, les FDS n'ont pas été visées. Pour, en ce qui concerne l'attaque de la région de Tillabéri, c'est un conflit intercommunautaire. De l'autre côté, à la frontière, la région de Taoua, et on parle vraiment de représailles contre la population qui collabore avec les autorités locales.
Est-ce que ça pourrait aussi avoir un lien avec l'arrivée annoncée des forces tchadiennes au Niger?
On peut avancer aussi que c'est suite à l'arrivée des forces tchadiennes dans la zone des trois frontières, les IGS, essayer de déplacer le conflit vers d'autres régions, notamment la région de Taoua. Et cette zone-là aussi, c'est une zone de prédilection de trafic de tout genre, surtout des groupes terroristes et de trafic de tout genre. C'est dans cette zone, c'est un couloir de passage de trafic de tout genre, ce qui explique peut-être cette attaque sur les civils.
Au Burkina Faso, mais aussi au Mali, on parle beaucoup avec insistance de négociations entre les populations et les groupes armés. Est-ce que c'est aussi le cas au Niger? Est-ce qu'on parle de négociations entre les populations et les groupes armés?
Pour l'instant, au Niger, on ne peut pas parler de négociations entre les groupes terroristes et les populations. Mais tous les villages qui se trouvent presque dans cette zone sont obligés, sous la menace terroriste, de payer les impôts. Ces groupes armés-là, ça fait au moins plusieurs années que nous avons reçu ces informations, au moins plusieurs mois, que ces populations payent les impôts aux groupes terroristes.
Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement à Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, David Hare, s'est adressé le 19 mars à la conférence ministérielle de la Coalition internationale pour le Sahel. Il a réaffirmé le soutien des États-Unis en soulignant l'importance de coordonner la réponse face à l'insécurité au Sahel. John Linden a joint à Johannesburg, en Afrique du Sud, Marissa Scott-Torres, porte-parole du département d'État pour l'Afrique francophone.
Premièrement, je dis que le sous-secrétaire d'État chargé des affaires politiques, David Hare, comme vous avez mentionné, a annoncé une aide humanitaire de plus de 80 millions de dollars au nom du peuple américain pour répondre à la crise dans le Sahel.
Alors, 80 millions de dollars annoncés À quoi concrètement va servir cet argent et à qui est-ce qu'il sera donné?
C'est financement annoncé lors de la réunion du 19 mars de la coalition pour le Sahel permettra de répondre à la crise au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger. Nous savons que plus de 20 millions de personnes ont besoin d'aide urgente. Donc l'aide humanitaire américaine fournira une protection essentielle, des opportunités économiques, des abris, des soins de santé essentiels, etc. Et y compris l'eau potable.
Alors, ce qu'on constate, c'est que malgré toute l'aide internationale qu'on apporte donc au Sahel, la situation sur place continue de se dégrader. Qu'est-ce qui explique cela, à votre avis?
Il y a plusieurs choses. Donc, l'objectif de notre cadre diplomatique pour le Sahel est de permettre au gouvernement d'Afrique de l'Ouest de s'attaquer aux facteurs d'insécurité, de continuer la propagation de la violence et de stabiliser la région grâce au soutien interagent international et américain mieux coordonné.
Alors, au-delà du financement que les États-Unis apportent aux pays du Sahel, est-ce qu'on peut savoir sur le plan strictement militaire ce que vous faites?
Comme vous savez, il y a le G5 Sahel et nous avons aussi le Trans-Saharan Counter-Terrorism Partnership, donc un partenariat avec quelques pays dans le Sahel et aussi en Europe, et y compris bien sûr les États-Unis. Donc, l'aide humanitaire est l'ordre de ce que nous faisons au niveau de militaire.
Et maintenant, pour améliorer la situation, puisque on voit toujours des attaques qui interviennent, que ce soit au Mali ou dans d'autres pays de la région, qu'est-ce que les États-Unis attendent concrètement des pays du Sahel et même des autres partenaires pour que la situation change?
Ils ont décidé de travailler ensemble. L'administration Biden a une approche qui est vraiment interagent et aussi multilatérale.
Alors, durant l'administration Trump, on n'a pas beaucoup vu les États-Unis intervenir en Afrique. À quoi peut-on s'attendre dans les relations Afrique-États-Unis avec l'administration Biden-Harris?
L'Afrique est une priorité pour l'administration Biden. Nous entendons dialoguer avec les pays africains rapidement et souvent en tant que partenaires au service de nos valeurs et de nos intérêts communs, notamment la sécurité, la santé mondiale, le changement climatique, la liberté et la démocratie et la prospérité commune.
Marissa Scott Torres, porte-parole pour l'Afrique francophone du département d'État.
À votre avis, votre émission interactive à 18h05, tout universel sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibour avec vous. L'accès à l'eau potable, quelle est la situation dans votre village, votre ville, votre pays? Est-ce que l'eau courante est accessible et quelle compagnie contrôle la distribution de l'eau? Votre quartier est-il bien desservi? Dans les campagnes, on utilise souvent les puits et les forages pour avoir de l'eau. Que faut-il faire pour améliorer l'accès à l'eau? Venez en discuter en direct ce soir dans À votre avis à 18h05, temps universel sur l'antenne de VOA Afrique. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À ce soir, 18h05, temps universel.
Au Congo-Brazzaville, l'opposant Mathias Zom va saisir la Cour constitutionnelle pour annuler l'élection présidentielle de dimanche qui, selon lui, est entachée de beaucoup d'irrégularités. Entre-temps, la commission électorale a publié quelques tendances qui plébiscitent le président sortant, Denis Sassou Nguesso. Des détails avec Arsène Sévrin à Brazzaville.
Sur la base des tendances et par ce qu'il a donné par localité trio au hasard, le président de la Commission nationale électorale indépendante a fait un résumé des résultats qui plébiscitent le président sortant Denis Sassou Nguesso. En témoignent ces exemples pris par Henri Bouka.
Wando commune, le candidat Sassou a obtenu 95,09% de suffrages exprimés. Le candidat président en fonction, il a pris l'ensemble, 100% des suffrages exprimés à Kakamuka. Alors, quand on va à Makwa, je vois le candidat Sassou avec 98,54%.
Même sur les terres de Guy Brice Parfait-Kolela, le candidat Sassou Nguesso a considérablement grignoté des voix.
À Makelekele, le candidat Sassou aurait obtenu 21,22% des suffrages exprimés et le candidat Kolela aurait obtenu 76,23%. À Bakongo, le candidat Sassou serait au coude à coude avec le candidat Kolela. À cette heure-ci, ce ne sont que des tendances, mais sur l'ensemble du pays, les résultats qui nous parviennent ici sont majoritairement dans ce sens.
Commentant le déroulement du scrutin, le candidat Mathias Nzon a dénoncé dans une déclaration une élection chaotique et mal organisée. Il a promis saisir la Cour constitutionnelle pour l'annulation du vote. Son porte-parole.
Le scrutin du 21 mars 2021 a été un véritable désordre électoral face à cette situation chaotique et suite au décès inopiné au cours du premier tour du scrutin de l'un des sept candidats, en l'occurrence Guy Brice Parfait-Kolela, le candidat Mathias Nzon introduira un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour faire annuler le premier tour calamiteux qui n'honore pas notre pays.
Mais pourtant, les observateurs de l'Union africaine et de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs ont salué une élection démocratique, libre et transparente, félicitant du coup les autorités congolaises pour ce succès.
L'élection présidentielle du 21 mars 2021 en République du Congo a été inclusive, transparente, démocratique et pacifique. Elle a rempli toutes les normes internationales en matière électorale. Les quelques manquements et imperfections constatés ça et là ne peuvent remettre en cause de façon globale le bon déroulement et la crédibilité certifiée de cette élection.
Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
L'administration Biden est sous pression avec l'afflux de migrants à la frontière sud des États-Unis pour mettre en place rapidement des politiques et des procédures visant à faire face à la situation, en particulier en ce qui concerne les enfants. Le point avec Michel Quinn de la VOA, le récit est de Jacques Aristide.
Sur la défensive et accusé par les républicains d'avoir provoqué l'afflux de milliers de migrants, le gouvernement de Joe Biden est sur tous les fronts pour tenter de rassurer sur sa capacité à gérer ce qui est décrit comme le premier grand défi de la nouvelle administration américaine. Alejandro Mayorkas, secrétaire à la sécurité intérieure, lors d'un entretien sur ABC, une chaîne de télévision américaine.
Le message est assez clair. Ne venez pas. La frontière est fermée. La frontière est sécurisée.
C'est donc le message de l'administration Biden, alors que le nombre de migrants attendus à la frontière américano-mexicaine est en passe de devenir le plus élevé en 20 ans, d'après le gouvernement, qui indique que ce n'est pas le moment pour les migrants d'effectuer la traversée en raison de la pandémie de Covid-19. Les adultes célibataires, qui constituent la majorité des personnes arrivées à la frontière, sont expulsés, idem pour les familles. En revanche, les enfants non accompagnés ne sont pas renvoyés, mais des milliers de mineurs sont détenus à la frontière, selon des informations rapportées par les médias. L'administration Biden tente rapidement de leur trouver un logement approprié et soutient qu'elle doit rebâtir le système migratoire démantelé par l'ex-président Donald Trump. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, à nouveau.
Nous reconstruisons le système en répondant aux besoins des enfants vulnérables qui arrivent à nos frontières.
Pour des élus républicains, c'est le président Biden qui a créé la situation. Ils évoquent ce qu'ils disent être son appel initial aux migrants d'Amérique centrale à ne pas venir aux États-Unis pour l'instant. Le président Biden a manifesté dimanche son intention de se rendre à la frontière mexicaine et a indiqué que son gouvernement allait insister sur son message demandant aux migrants de ne pas tenter de venir aux États-Unis.
C'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sejudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com. et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.